Paris.
Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
Le président de la République a-t-il eu raison, selon vous, de réaffirmer hier la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv?
Oui, Emmanuel Macron a raison de dire cette responsabilité de l'État français. Je voudrais d'abord rappeler ce qu'a été la rafle du Veldiv, parce que c'est un événement de notre histoire qui est terrible. Pendant deux jours, le 16 et le 17 juillet 1942, on a eu 13 152 juifs qui ont été arrêtés à la demande des nazis et sur ordre du pouvoir français. Ils ont été détenus pendant quatre jours dans des conditions littéralement inhumaines, entassés sur les gradins du vélodrome d'hiver, et puis ils ont été emmenés dans des camps du Loiret, et là, ce sont 3000 enfants qui ont été déportés à Auschwitz. Et au total, moins d'une centaine de ces personnes qui ont été raflées ont survécu, et dont absolument aucun enfant. Donc jusqu'ici, ce travail de mémoire, de reconnaissance de la responsabilité de l'État français avait été initié par Jacques Chirac quand il était président de la République, mais un silence profond a régné. Donc il est important de poser les responsabilités, et le débat avait été ouvert à nouveau par Marine Le Pen pendant la présidentielle, puisqu'elle avait dit « la France n'est pas responsable du Veldiv ».
Alors on peut discuter entre... Ce qui était la position de François Mitterrand, qui considérait qu'il n'y avait pas eu de continuité de l'État et que le régime de Vichy, ça n'était pas la France.
On peut discuter sur la différence entre la France et l'État français, mais quand on est président de la République, on se doit de dire la responsabilité de l'État français et de cette période de l'histoire. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose, et une bonne chose aussi qu'Emmanuel Macron ait rappelé que ces crimes ignobles sont le fruit d'une idéologie, le racisme et l'antisémitisme. Pour autant, qu'il l'ait fait en ayant à ses côtés Benjamin Netanyahou me paraît un message tout à fait contraire à ce qu'il a voulu dire, parce que Benjamin Netanyahou n'est pas l'homme du message fort pour la paix.
Alors justement, depuis son élection, Emmanuel Macron multiplie les invitations à des personnalités, et on l'entend bien à ce que vous venez de dire, qui ne font pas l'unanimité, loin s'en faut, Vladimir Poutine, Donald Trump et donc Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous pensez de cette diplomatie? Est-ce que le calcul d'Emmanuel Macron n'est pas de créer des relations personnelles fortes? On a entendu par exemple hier qu'il s'adresser au Premier ministre israélien en utilisant son surnom, il l'a appelé Bibi, des relations personnelles fortes, donc pour pouvoir évoquer peut-être plus franchement les sujets difficiles.
Écoutez, je trouve très curieux qu'il ait invité Donald Trump au 14 juillet, qui est la fête nationale. C'est un homme climato-sceptique, particulièrement réactionnaire. On voit la situation aux États-Unis pour les femmes, pour le système de santé, pour beaucoup de choses, qui est en danger. Je ne pense pas qu'il soit un interlocuteur privilégié de la France, qui mériterait de sortir de l'OTAN. Et surtout, je pense que pour le 14 juillet, fête nationale, l'invité est absolument curieux. Qu'il souhaite discuter avec Donald Trump, bien évidemment, comme avec Poutine, comme avec tout le monde. Mais il pose des actes symboliques qui ne sont pas de nature à faire vivre la paix, la justice sociale, les valeurs fondatrices de la France. Je ne crois pas que ce soit des interlocuteurs privilégiés.
Emmanuel Macron dit qu'il a peut-être réussi à infléchir la position de Donald Trump sur l'accord climat de Paris. Ça, ce serait un succès si ça se confirmait, bien entendu.
Mais écoutez, je ne sais pas où cet accord serait confirmé. Moi, je ne vois rien venir et je doute que ce soit simplement un déplacement avec un dîner à la Tour Eiffel pour afficher son amitié avec un homme, encore une fois, qui a une idéologie particulièrement dangereuse. Si ça aboutit, vous me rappellerez et on s'en parlera.
On en reparlera, d'accord.
Je ne vois rien aboutir. Quant à Benjamin Netanyahou, j'insiste, cette visite a été y compris critiquée par l'Union juive française pour la paix, parce que Benjamin Netanyahou est un homme de droite et d'extrême droite. C'est un homme qui met en place une stratégie de colonisation renforcée et qui n'est certainement pas l'homme qui permettra d'aboutir à un accord de paix dans cette région, qui est une région embrasée depuis très longtemps et où on voit un peuple opprimé. Et Benjamin Netanyahou ne veut pas d'un accord qui permette la reconnaissance d'un État palestinien. Donc je trouve cette visite particulièrement étrange et sûrement pas de nature à clarifier la position de la France.
L'Assemblée nationale a voté en fin de semaine dernière la loi d'habilitation à réformer le code du travail par ordonnance. Les députés de la France insoumise se sont battus. Que retenez-vous de cette séquence parlementaire?
D'abord la brutalité du gouvernement, qui a agi très très vite, très fort, en méprisant le débat parlementaire et en méprisant aussi tout ce qui pouvait être mis en place en termes de mobilisation sociale et de débat public.
Vous diriez en méprisant les, vous diriez aussi en méprisant les députés de l'opposition que vous êtes, par exemple, la France Insoumise ?
Pas simplement de l'opposition, les députés tout court. Vous savez, on a dû voter sur un texte qui définit le périmètre dans lequel le gouvernement aura tout pouvoir. Ce débat s'est fait en 3 jours, avec des amendements qui ont dû être déposés avant même que nous ayons des bureaux et des collaborateurs. Donc, y compris les députés de La République en Marche sont de ce fait méprisés parce qu'il n'y a pas eu de débat, de temps possible pour un débat véritable à l'Assemblée nationale, ce que nous regrettons. Et par ailleurs, le fait qu'il estime que l'urgence absolue, c'est de détricoter le code du travail avant l'été, alors même que nous n'avons pas vraiment mesuré ce que la première loi travail du gouvernement Valls, c'est-à-dire la loi dite El Khomri, a pu produire pour lutter contre le chômage. Oui, je pense que la méthode indique une forme de brutalité avec un projet qui consiste à dire que faciliter les licenciements va permettre de lutter contre le chômage, ce que, je dirais, depuis les années 80, on devrait être habilité à penser que ça ne fonctionne absolument pas. Ce sont des recettes néolibérales qui sont appliquées depuis 30 ans, depuis Margaret Thatcher, partout en Europe, y compris en Italie et en Espagne, et qui ne permettent pas de rompre avec un chômage de masse et une explosion de la précarité dans les pays européens.
Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, qui était mon invité la semaine dernière, parlait d'une volonté de dialogue du gouvernement sur ce sujet, sur cette loi travail, saluait des avancées sur un certain nombre de points, notamment, disait-il, sur la question des branches, et reconnaissait qu'il n'y avait plus, en l'état actuel des choses, d'inversion de la hiérarchie des normes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une position d'abord idéologique sur ce dossier ?
Écoutez, alors il faudra m'expliquer pourquoi le gouvernement a mis la question de l'inversion des normes dans la proposition, enfin le projet d'habilitation. C'est-à-dire qu'en tout cas, il a les mains libres pour voter sur cette inversion, pour faire en sorte que les accords d'entreprise puissent primer sur des accords de branche. Moi, j'ai été frappée par un refus du Parlement de vanter l'un de nos 132 amendements que je vais vous citer. C'était un amendement pour préciser que les ordonnances sur le code du travail ne porteront pas préjudice aux droits des salariés. Cet amendement a été rejeté. S'il a été rejeté, c'est parce qu'il s'agit bien de faire reculer les droits et protections. Après, M. Mailly, comme la CGT et les autres syndicats tente de pousser et de mener la discussion avec le gouvernement autant que cela est possible. Nous ferons le bilan à la rentrée de cette concertation, mais moi, comme parlementaire et nous, comme groupe parlementaire d'opposition, la réalité, c'est que nous savons ce qui a été voté et que nous sommes très inquiets des conséquences et du pouvoir qui est donné au gouvernement pour tout simplement dilapider 100 ans de lutte sociale dans notre pays. Et donc, oui, je suis inquiète et en colère. Et je sais que la mobilisation à la rentrée risque de prendre de la vigueur.
La suite, c'est dans la rue maintenant ?
La suite est dans la rue, pas seulement. Peut-être qu'il reste des outils parlementaires à notre disposition. Mais en tout cas, nous utiliserons tous les moyens de nos dispositions pour faire reculer le gouvernement sur ce projet qui est un projet dangereux pour le pays et pour les salariés.
Merci Clémentine Autain. Bonne journée.